bonjour et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Éric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants sur leurs pratiques pédagogiques en classe avec le numérique. Ludomag, depuis mars 2024, après le français, s'exporte dans les pays en éducation en langue anglaise et espagnole. Vous pouvez retrouver ce podcast en langue française sur Aucha et Apple Podcast et sur YouTube Podcast pour les versions anglaises et espagnoles. Nous abordons la saison 5 de notre podcast qui a pour titre « Le numérique au quotidien dans ma classe ». En effet, le numérique relève du quotidien pour la majorité de la population. Ce qui fut l'avenir au temps des NTIC vers les années 95 s'est immiscé dans les pratiques et les usages journaliers. L'idée de cette saison 5 est donc de découvrir comment le numérique est utilisé en classe au quotidien de nos jours, plus que de se projeter dans un avenir incertain, voire prometteur, de nouvelles technologies. Dans les podcasts de Ludomag, nous recevons des enseignants, des formateurs, des éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposer sur le thème. Nous sommes aujourd'hui avec Marie Soulier. Bonjour Marie Soulier.
Bonjour Eric.
Alors Marie Soulier, on te connaît, tout le monde te connaît et tu es déjà passée dans les podcasts de Ludomag, lors de la saison 4 d'ailleurs. Et là donc on entame une nouvelle saison, la saison 5 des podcasts de Ludomag et on va aborder un sujet qu'on va traiter cet été à Ludovia qui est la quotidienneté du numérique en classe et dans les établissements. Alors c'est vrai que pour la 21e anniversaire de Ludovia, on s'est dit, arrêtons de parler du futur, parce que souvent, quand on parle de numérique, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Donc ça, on a fait ça pendant des années à Ludovia et dans le cadre de Ludomag. Et là, aujourd'hui, on s'est dit, en fait, les enseignants, ils utilisent le numérique au quotidien, c'est sûr. Alors, il y en a qui sont, comme toi, des habitués du numérique, qui ont testé plein de choses, la classe inversée, des pratiques, même jusqu'à l'intelligence artificielle. Tu me disais que tu avais touché ChatGPT pour l'utiliser en cours comme quelques précurseurs. Et puis, en fait, tu fais souvent des petits tips sur Geniali. Et donc, tu nous as appelé, tu nous as dit, regarde, j'ai un super truc. Alors là, on a une espèce de... Moi, je le vois devant moi, on a une espèce de boîte à tiroirs avec plein de petits moments où on va utiliser le numérique en classe. Donc, 40 outils numériques simples, la plupart du temps gratuits, parce que c'est un peu aussi le leitmotiv de Marie Soulier, c'est il faut que ce soit gratuit, il n'y a pas besoin d'investir lourdement. Et donc, on se propose, lors de ce podcast, de voir un petit peu ce que tu proposes. On mettra bien entendu le lien de ce Geniali pour que les collègues puissent découvrir cette boîte à idées. En fait, c'est des boîtes à idées, c'est 40 boîtes. Alors, on a convenu ensemble de démarrer sur l'avant-cours, le début du cours et la fin du cours et après le cours. Donc, voilà. Donc, on a choisi 4-5 petits sujets dans les 40 idées simples. Mais avant qu'on démarre sur ces choses très concrètes, est-ce que tu rejoins l'idée qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un outil qui, pour la plupart des enseignants et tes collègues, je ne dirais pas que ça coule de source, parce qu'encore, il y a des complexités, mais est-ce que chacun, tu as le sentiment que chacun aujourd'hui a une notion du numérique, utilise plus ou moins des outils numériques en classe, et que on n'est plus dans le futur, on est dans le quotidien?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça devient aujourd'hui presque un réflexe de dire est-ce que tu utilises le numérique? Mais en fait, la question, pour moi, elle est dépassée depuis très longtemps. La société numérique, même quelqu'un qui n'est pas dans l'éducation et qui n'a pas forcément eu une formation, fait du numérique. Moi, j'ai ma maman qui est âgée et qui utilise le numérique tous les jours parce que de toute façon, elle n'a pas le choix. Donc, la question se pose plus. Voilà, ça, c'est passé, c'est classé. Effectivement, ça fait partie du quotidien de nos jeunes et de nos collègues aussi. Donc moi, mon idée, c'était de rentrer justement dans ce quotidien. C'est pour ça que le thème de Ludovia l'année prochaine, enfin cette année plutôt en août, est intéressant. Parce que tu le sais, j'aime beaucoup revenir à des choses simples. Souvent, on rentre dans de l'entre-soi avec déjà des pratiques abouties sur des projets finalement très spécifiques que les collègues regardent, mais ne se projettent pas forcément. Moi, j'avais vraiment envie de ça. Et donc, j'ai eu cette idée. Alors, ça m'est venu il y a 15 jours. Hein, j'étais en voiture. Et puis, d'un coup, j'ai eu cette idée de faire quelque chose de simple. J'ai vu beaucoup de collègues qui font des lettres, enfin, qui font des posts ou qui ont des blogs sur les outils, qui présentent des outils. Donc là, c'est par exemple, je pense à quelqu'un qui est exceptionnel, Outitis, hein, qui envoie sa quotidienne, son hebdo toutes les semaines. Lui, il fait cette veille d'outils, c'est super important, ça, il n'y a aucun souci. Mais j'avais envie de rentrer plutôt dans les usages, voilà, donc les pratiques. Donc mon génie, il ne présente pas les outils. Bon, il donne, je dis chaque fois,
Quelques pistes.
voilà, ce que j'utilise moi, mais en aucun cas, c'est la présentation d'un outil, mais plutôt d'une pratique. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça les 40 idées simples d'utilisation d'outils en classe. Et donc, avec à chaque fois, quand on ouvre les fameux tiroirs, on a une petite fiche, une fiche de recette. Hein, je l'ai présenté un peu comme ça, c'est vraiment comme une recette. Comme un guide, hein, d'abord utiliser ça, puis ensuite ça, puis ça, puis ça. C'est un peu chronologique et ça permet aux collègues d'enrichir ces fiches, parfois même de les suivre à la lettre. Hein. J'ai déjà eu des retours de collègues qui m'ont dit, ah, c'est super, c'est hyper clair, c'est très concis, ça tient vraiment dans la main, quoi. Il y a 4-5 lignes et ça donne une idée vraiment pédagogique. Et encore une fois, je décris une situation de cours. Voilà l'esprit. Alors, comme tu m'as demandé de faire un ordre, on va essayer de respecter effectivement cette chronologie. Le but n'est pas de présenter les 40, mais on va essayer. Je crois que tu voudrais que je commence d'abord par une présentation au début de cours.
Oui, alors avant, je revois un petit peu toutes ces idées qui sont présentées là devant moi. Ça s'adresse, donc tu es enseignante en collège, hein, il faut le dire. Ça s'adresse donc pour le collège, mais ça peut être utilisé pour certains en premier degré,
Bien
je
sûr.
pense. Il y a certaines choses qui sont utilisables en premier degré, peut-être pas tout, hein, ça dépend à quel niveau, et jusqu'au lycée, hein, donc on est sur le K12, comme on dit,
Ah oui, tout
oui,
à
la plupart
fait.
du
Et
temps.
même au-delà, hein, même au-delà du
Ouais.
lycée. Et puis, précisons aussi que ce n'est pas, bon, quelquefois je donne des exemples, mais ce n'est pas uniquement pour le cours de français, hein, c'est vraiment pour toutes les disciplines. Voyez, comme une recette, voilà, quelques pistes, quelques recettes que chacun peut prendre et puis, bien sûr, adapter à son contexte.
D'accord. Donc on commence par le commencement, on va dire. Qu'est-ce que je dois faire? Ça s'appelle en anglais une to-do list avec un E en français.
Oui.
Donc pourquoi cette to-do list et qu'est-ce que tu en fais?
Alors, ça, c'est une idée que j'ai eue. Bon, c'est pas nouveau, mais je le faisais sans le numérique, à vrai dire. Et je propose à chaque début d'heure aux collègues de faire visualiser un petit peu la structure du cours. Alors, pédagogiquement, c'est intéressant parce que ça permet ben, déjà de montrer, de partager avec la classe les attendus. Le parcours, ce que l'on va voir au cours de l'heure, ça crée tout de suite une chronologie. On sait que ça stimule aussi les to-do list, hein, parce que ce qui stimule, c'est quand elles s'effacent au fur et à mesure que les tâches sont accomplies. Donc, ça permet aussi aux élèves de mesurer ce qui est accompli et ce qui reste à faire. Donc, ça permet de dévoiler, bien sûr, les étapes. Donc tout ça pédagogiquement m'intéressait. Alors je le faisais évidemment à la main avant, et puis là maintenant, j'utilise une petite application que je projette hein, directement. Et les élèves donc peuvent contribuer à remplir parfois la to-do list. Hein. Ça arrive quelquefois qu'ils vont au tableau, ils complètent ou alors ils viennent cocher. Voilà, ça fait partie du rituel. Ils viennent cocher au fur et à mesure quand ils estiment qu'il y a une partie du cours qui a été réalisée. Hop, on coche sans me le demander, on y va. Donc ça permet aussi quelque part, tu vois, cette idée de to-do list, tout simple, hein, d'impliquer, d'engager un peu plus les élèves sur la chronologie, le déroulé du cours. Voilà, ça c'est une première piste que j'ai donc mise dans un des tiroirs magiques.
Voilà, et donc tu utilises Rappel sur iOS. Je
Voilà.
suppose que sur Android, il doit y avoir
Ça.
également cette application qui est déjà installée,
Voilà,
hein,
c'est ça.
nativement sur n'importe quel smartphone,
Tout à fait. Ou à minima,
pas trop cher du.
plus simplement, ça peut être une page Word avec des petites cases à cocher, hein. C'est, ça n'a rien de fou, quoi. Mais c'est vrai que ça a ce côté intéressant. Après, on peut me dire aussi, mais on peut le faire à la main, hein. Ça peut être fait aussi sur le tableau blanc, ou sur le tableau bleu ou noir, enfin peu importe, hein. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'idée, c'est vraiment d'impliquer les élèves dans le déroulé du cours. Autre que, souvent, on met les objectifs. Et puis on s'arrête là. Moi, c'est vraiment tout, y compris les tâches administratives, hein. Si à un moment donné, je sais que je dois distribuer les papiers, je le marque. Ça me permet aussi, moi, je commence à vieillir, ben, d'oublier. Ça évite les oublis, quoi.
Ok, bien, bien, bien. Alors, on sait qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, hein, d'images en classe, hein, quelles que soient les disciplines. Hein. On sait que ça sert beaucoup, hein, pour les élèves, hein, que ce soit en histoire géo ou autre. Voilà. Donc là, tu proposes un petit outil
Oui.
pour légender les images. Alors, pourquoi on légende les images? Dans quel contexte?
Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est pas, comme je l'ai dit, pas tellement l'outil parce que j'en ai proposé là aussi un, mais il y en a certainement évidemment d'autres et bien meilleurs. Bon, celui que je propose là, en l'occurrence, il est gratuit, il est en ligne, mais c'est surtout l'intérêt. À quoi ça sert? Voilà. À quel moment, en fait, on utilise une image? Bon, ben, une image, quand on regarde bien, c'est un support pédagogique très, très intéressant. C'est à la fois des schémas, ça peut être des schémas techniques à annoter, ça peut être des cartes historiques, ça peut être des tableaux aussi que l'on commente. Éventuellement, peut-être même des photographies, hein, historiques ou pas. Et l'idée, c'est d'impliquer les élèves dans une légende. Ça permet d'aller un peu plus vite aussi, parce qu'on peut en faire plusieurs. Si on distribue l'image, ça veut dire qu'il faut la photocopier, qu'on l'imprime, on photocopie couleur, etc. Ça peut être très, très vite difficile. Moi, ce que j'aime dans les outils numériques, c'est qu'ils me permettent de faire plus vite et mieux. Voilà. Sinon, si c'est la même chose, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la to-do list, qui, elle, peut être, là, pour le coup, pas numérique du tout. Là, l'avantage, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? On a, par exemple, une image à commenter. On va l'envoyer, on va demander aux élèves d'aller la récupérer. Alors, ça peut être sur un drive ou autre chose. Et puis, l'élève va la porter, donc, sur un site en ligne. Il suffit, c'est très simple. En un clic, on envoie l'image et après, on met des marqueurs. Et les élèves, donc, légendent comme ça l'image. Et ensuite, eh ben, on peut comparer. Voilà, ça, c'est quelque chose de très simple. Et on peut tout à fait l'utiliser en mathématiques, en sciences, en histoire, en français, enfin,
En
en
langue.
langue, tout à fait. Voilà.
D'accord. Donc ça se fait avec un petit QR code,
Alors, oui, c'est
si on veut.
vous irez voir. Hein, encore là, je ne vais pas révéler tout tout de suite.
Ouais.
Mais légender les images, c'est un des tiroirs à ouvrir. Et puis le site que j'utilise, c'est Annotator de Class Tools. Voilà.
Ouais. Une petite question subsidiaire. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu invites les élèves à utiliser leur smartphone en classe pour pouvoir un petit peu interagir, ou c'est
Alors.
parce que là, quand il y a un QR code, forcément, là, il faut un
Oui,
appareil photo.
effectivement, je mets directement le QR code parce que les élèves scannent le QR code. Alors, pas avec des smartphones chez moi, c'est des tablettes. Donc, ils scannent
D'accord.
directement. Ça, ils arrivent directement sur le site et hop, ils vont chercher l'image et ils l'envoient sur le site et ils la notent. Ça peut être un travail collaboratif. Moi, j'aime bien faire ça. Un petit groupe, ils négocient. Donc, et puis ensuite, effectivement, quand les légendes sont placées, on partage, on projette, on
Et on
propose.
peut garder les résultats, hein,
Et on peut
puisque
garder
ça permet
éventuellement le résultat.
de.
Tout à fait. Voilà.
D'accord. ça soit une copie
Et
d'écran,
ça,
tu vois, par
celui-là, je
enregistrement.
remercie Outitis, justement, hein,
Oui, merci au Titis.
c'est lui qui en a parlé récemment. Enfin, souvent, je prends l'inspiration de chez lui pour la connaissance de l'outil. Et j'essaye, moi, là, pour le coup, dans ce projet, de le scénariser, de le mettre en forme.
OK. Alors, donc, on a légendé les images, on peut faire plein de choses. Et puis, donc, on a fait des images, on va annoter peut-être des. On peut annoter des choses également, pas forcément que des images.
Oui, puis avant, peut-être, il faut peut-être parler, parce que ça, c'est important, pendant le cours, de la recopie vidéo sur un vidéoprojecteur.
Ah, bah oui, c'est vrai. Oui.
Comme là, on parle des images, on va aller jusqu'au bout.
Bah, souvent, les collectivités investissent hein, dans soit des vidéoprojecteurs interactifs ou vidéoprojecteurs simples. Et c'est vrai que souvent, bah, la manipulation de ce genre de choses, alors, ne parlons pas des ENI, hein, c'est un peu plus complexe, souvent, on est un petit peu désemparé. Donc là, effectivement, tu donnes des recettes simples avec des outils que l'enseignant maîtrise.
Oui,
Est-ce qu'on
voilà,
peut.
tout à fait. Alors, soit effectivement, il n'y a absolument aucun outil numérique à disposition des élèves, hein, ni smartphone, ni tablette, etc. Et le professeur a juste son outil personnel, c'est-à-dire son ordinateur relié au vidéoprojecteur, et puis un téléphone. Voilà. Et juste avec ça, effectivement, on peut prendre en photo et ensuite envoyer directement. Là, par exemple, il y a un outil qui a été développé par Arnaud Durand du site Matix, qui est vraiment MacAdoc, ça s'appelle. C'est hyper pratique. C'est un QR code. On scanne le QR code avec son smartphone. On prend une photo et hop, ça se projette directement sur le vidéoprojecteur, puisque on a ouvert aussi sur le vidéoprojecteur le MacAdoc. Et donc on a de manière instantanée la photo qu'on vient de prendre. Donc ça, c'est très 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 facile. Et c'est cet esprit-là qui m'intéresse. Donc là, on peut le faire avec une photo, mais il y a aussi la possibilité, avec d'autres solutions, d'ouvrir carrément. En fait, il suffit de synchroniser, d'avoir un site ouvert sur l'ordinateur relié au vidéoprojecteur et l'application sur le smartphone. Quand c'est synchronisé, on prend en photo et hop, au fur et à mesure, ça se projette directement sur l'écran. Donc là, une situation que je décris, c'est par exemple, les élèves sont en train de faire un exercice sur papier, hein, sur leur cahier, et le professeur circule avec son smartphone. Il a ouvert donc sa plateforme et il fait des photos des cahiers. Et au fur et à mesure, ça se projette. Puis à la fin, quand l'exercice est terminé, on peut comparer, regarder un petit peu les différentes productions. C'est plus pratique, tu l'avoueras, que de prendre les cahiers, de les amener, de les photographier. À l'époque, on avait même des webcams, hein, qui permettaient de projeter. Bon, là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça, c'est un usage à minima. Donc, un seul téléphone et un ordinateur relié à un vidéoprojecteur. Et là, déjà, on a quelque
Oui,
chose d'intéressant, en fait.
parfois les classes où l'enseignant est doté d'un visualiseur, une sorte de webcam hein, qui est accroché à une espèce de câble souple. Mais effectivement, quand on n'a rien, eh bien, on peut éventuellement passer par ça. Donc, à utiliser avec modération, y a pas de, on laisse pas de traces là-dessus. Hein, quand on parle de RGPD, autorisation, etc., etc. Au pire, l'enseignant garde la main. Au mieux, ça laisse pas de traces, ce genre de
Alors
service.
là, sur MacAdoc, je pense que c'est instantané. Les photos sont écrasées au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de stockage. Après, te dire si c'est un outil RGPD, évidemment, là, je n'ai pas les compétences. Mais là, si tu veux, ça implique surtout la photo du cahier. C'est le cahier d'un élève, bon, ça c'est sûr. Mais à minima, ça peut être aussi son propre cahier, hein, qu'on
D'accord.
photographie et qu'on projette.
Voilà. Mais c'est à l'enseignant de regarder un petit peu ce qu'il
Tout à fait.
photographie
Après, tout
et
ça, hein,
comment on utilise tout
tous
ça.
ces outils-là, hein, moi, enfin, ces scénarios que j'ai présentés, c'est mon quotidien de classe. Donc, modestement, je
D'accord.
partage, mais évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça, que c'est un dogme et qu'il faut suivre à la lettre ce que je fais. Chacun, bien sûr, prend ses distances par rapport à ça, et puis aussi par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la réglementation. l'alimentation. Donc il faut le souligner. Et puis quand on fait un usage, ben, déjà à minima, le dire à son chef d'établissement, on va utiliser, je vais utiliser mon téléphone pour photographier, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà.
Okay. Alors, au quotidien, ben, un enseignant, on sait qu'il parle souvent, soit en salle des profs, soit à la maison, de ses copies à corriger,
Oui.
ou des copies. Alors, c'est commenter les copies, annoter les copies. Est-ce qu'il y a une petite astuce numérique, un petit outil qui permet de le faire facilement?
Bon, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais celle que je décris, c'est par rapport à un QR code, en fait. Donc, ce sont des QR codes que l'on. Alors, on se crée un compte personnel. On s'imprime une planche de QR code. Et quand il y a une copie qui pose problème, enfin, qui pose problème dans un sens positif ou négatif, d'ailleurs, hein, peu importe, mais on sait que. Le passage par l'oral sera beaucoup plus efficace que d'écrire un long discours sur la copie. Donc à ce moment-là, on peut effectivement avoir recours au QR code. On copie le QR code, on le colle sur la copie. Avec son smartphone, on le scanne et on enregistre directement un commentaire. Ensuite, le jeune, sans avoir besoin de se créer un compte, en
Il
scannant,
écoute le commentaire.
écoute le commentaire, voilà. Ça, c'est facile à faire, très facile à faire. Alors, je ne fais pas systématiquement sur toutes les copies, évidemment, ça serait un peu chronophage, mais ça permet parfois d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, d'un peu plus délicat, que le simple passage à l'écrit qui est toujours un peu distancié pour les adolescents.
On pourrait inverser le problème.
Alors, on peut.
C'est-à-dire que l'adolescent, quand il doit faire un lourd travail à la maison et que il a peut-être pas tout compris ou il aurait peut-être des commentaires à faire en plus sans les écrire, il pourrait proposer un QR code à l'enseignant et faire un speech sur ce qu'il a fait.
Oui, bon, après, il y a des solutions aussi plus simples. Hein. Il y a les ENT qui permettent de faire ça.
Ouais.
Donc, s'il y a un problème, un message audio, hein. Ils aiment
Un
bien
message
utiliser
audio,
les mémos
voilà.
vocaux. De toute façon, les mémos vocaux, c'est un outil qu'ils aiment bien utiliser. Donc, oui, ça, il y en a déjà qui le font. Hein. Et sans
D'accord.
passer là, du coup, par des solutions qui ne seraient peut-être pas RGPD. Parce que là, il faudrait qu'ils se créent des comptes, etc.
C'est ça.
Donc, ouais, de toute façon, c'est toujours très délicat. Quoi qu'on fasse, si on creuse, on n'est pas tout à fait dans les clous. Hein.
Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire du QR code qui
Oui.
facilite en fait je dirais, les transactions entre l'élève, le média ou l'enseignant. C'est quelque part, plutôt que d'aller se connecter, aller voir dans tel endroit, etc., etc., tout de suite, on voit qu'il y a un QR code, il va se passer quelque chose, je scanne et hop, j'entends ou je vois, ou etc., etc. Je sais que moi, j'étais allé au Japon il y a pratiquement une quinzaine d'années, mais les Japonais n'utilisaient que ça. C'est-à-dire que c'est des QR codes, les QR codes pour tout et rien. C'est tellement facile d'approche que ça ne m'étonne pas que ce soit préconisé dans plein de petits tips comme ça numériques à proposer en classe. Voilà. Donc on a fait le tour un petit peu annotation des copies. Si, il y a la fin du cours, hein,
La
parce
fin
que
du cours,
souvent, en
voilà.
fait,
La
voilà.
fin du cours avec ce qu'on appelle les tickets de sortie. Bon, il y a plein de collègues qui en font déjà sur plein de formes différentes. Là, je présente un usage avec son propre téléphone et son dictaphone. Donc, qu'est-ce que c'est que le ticket de sortie? Ben, ça permet à l'enseignant d'avoir un retour immédiat de ce qui est resté. Donc, la question est toujours la même. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Selon vous. Et moi, je me balade avec mon dictaphone. C'est un rituel. Donc, je l'enregistre tout de suite et je me balade. Hein, l'enregistrement est en continu et je passe d'un îlot à un autre et je pose des questions. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Et ça fait un enregistrement global pour toute la classe. Je les stocke et de temps en temps, je vais les réutiliser un mois, 2 mois plus tard. On réécoute pour savoir un petit peu de quoi on parlait ce jour-là. Ah oui, c'était ça. Et hop, ça permet de réactiver un peu le souvenir. Donc le dictaphone, c'est un moment un peu intime avec la classe. Et c'est facile à faire, très facile à faire. Et ça permet aussi pour l'enseignant de se souvenir aussi. On n'a pas toujours la mémoire des cours. Alors, je ne fais peut-être pas systématiquement, mais au moins une fois par semaine, je fais ce petit ticket de sortie de classe.
Mais c'est vrai que la notion de ticket de sortie, je crois qu'on avait parlé avec Astrid lors d'un précédent podcast, c'est très utile parce qu'en fait, on a un retour sur ce qui s'est passé dans la séance. Souvent,
Ça, oui.
la séance, la sonnerie s'enclenche, les élèves rangent leurs cahiers, s'en vont et hop, le cours est fini. On ne sait pas trop ce que ça a donné. Et c'est vrai que souvent, l'enseignant se demande, bah, est-ce qu'ils ont intégré? Est-ce que ça leur a plu? Je ne sais quoi. Et donc là, c'est une des manières donc d'avoir ce ticket de sortie, j'allais dire ticket restaurant, ça c'est pour plus tard. Si c'est à midi, effectivement, ils auront besoin des deux. Ça permet en fait un retour pour l'enseignant qui est
Oui,
très fort utile.
il y a un petit côté un peu rigolo parce que les élèves savent pas qui je vais vers qui je vais tendre le micro. Je le lâche jamais des mains d'ailleurs, hein, pour pas qu'ils me monopolisent aussi. Mais je passe d'un à l'autre. Ça m'arrive de hop de couper la parole, enfin et de lancer le micro ailleurs. Et ce côté dynamique qui se fait, ça prend 2 minutes, hein, pas plus. Ça permet d'avoir un rituel un peu sympa. Et Astrid Grémillet aussi, elle fait ça, mais je ne sais pas si elle ne fait pas avec des post-it.
Oui,
Voilà,
c'est
il y a
ça.
aussi pas mal de gens qui le font avec des post-it. Donc Astrid Grémillet, allez la voir. En plus, elle est de mon Académie de Bordeaux. Elle fait un travail remarquable.
Non, c'est très intéressant. Écoute, Marie, donc on a fait un peu pas le tour, hein, puisqu'il y en avait 40 à faire, on aurait eu au moins pour 2 heures. Mais ce n'était pas l'objectif. On invitera les gens dans l'article à aller consulter ce Génali. Je regardais quand même, alors il y a des couleurs vertes, il y a des couleurs jaunes, il y a des couleurs rouges. Donc on imagine que c'est un niveau de difficulté. C'est quoi en fait?
Oui, je me suis dit que bon, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé pardon, excusez-moi, j'ai essayé de faire une échelle un petit peu de degré de difficulté, mais plutôt au niveau de la mise en place que de l'outil. Donc voilà, c'est bon, c'est un petit code personnel, mais c'est vraiment à titre d'indication, mais je suis pas sûre que ça soit.
Allez, on va dire que c'est la période du ski, même s'il n'y a pas eu beaucoup de neige, on a les pistes vertes, pistes jaunes et pistes rouges. Il n'y a pas de noir, donc ça va. On va pouvoir manipuler tout ça. Merci Marie
Merci.
et à une prochaine fois.
J'en
Oui?
profite quand même pour
Oui?
faire la pub.
Oui?
Les Ludovials très prochainement. Là, du coup,
Ouais.
je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis sinon, à Ludovia, rendez-vous à l'espace Premier Pas, hein, n'est-ce pas, Eric?
C'est
Du coup,
ça.
je pense que les tiroirs, vous retrouverez ça,
On en
et ce sera
retrouvera, on
animé
en
par
retrouvera.
des collègues qui viendront expliquer des usages simples.
Et oui, il y a convertir son texte en voix, ça m'intéresse aussi, les images interactives, les leçons à manipuler, le clavardage, les QR codes, la dictée vocale. Pouf, il y en a plein, plein, plein.
Oui, tout à fait.
Merci Marie.
Merci Eric. Merci à toi pour l'invitation.
C'était les podcasts de Ludomag. Vous pouvez retrouver ce podcast en langue française sur Aucha et Apple Podcast et sur YouTube Podcast pour les versions anglaises et espagnoles.